France Inter. Bienvenue dans l'émission Au livre, etc. Aujourd'hui, une émission consacrée à Gustave Flaubert, écrivain qui, plus d'un siècle et demi après Madame Bovary, continue d'irriguer la littérature contemporaine.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord Robert Lalonde, immense figure des lettres québécoises qui publie « L'imagination que donnent les vraies tendresses » aux éditions du Boréal. Sous la forme d'une correspondance fictive avec Flaubert lui-même, il engage un dialogue d'outre-tombe entre deux écrivains séparés par un siècle et un océan, mais unis par la même passion des mots. Lalonde, fervent lecteur de la correspondance de Flaubert, signe un hommage à l'art d'écrire, à la tendresse et à la beauté du style comme exigence morale. Il sera en duplex avec nous. Nous accueillerons ensuite le romancier et professeur de lettres Alexandre Postel pour son nouveau roman « Tout oui », publié cette rentrée aux éditions de l'Observatoire, roman qui a le souci flaubertien du refus du psychologisme et du cliché. Nous parlerons aussi avec lui d'un autre livre, son roman « Un automne de Flaubert » paru chez Gallimard en 2020, dans lequel il raconte le séjour du romancier à Concarneau, un Flaubert vieillissant, malade, mais toujours hanté par le désir de perfection et l'impossibilité d'atteindre le mot juste. Chez Alexandre Postel, Flaubert devient miroir de nos fatigues contemporaines, un homme aux prises avec le doute, mais qui continue d'écrire pour survivre. Et enfin, nous retrouverons la romancière Maria Pourchet pour son dernier ouvrage, Tressaillir, chez Stock, roman d'une femme qui quitte tout pour retrouver la vibration du vivant, cette secousse intérieure qui précède parfois la liberté. Tressaillir mêle lucidité, ironie et douleur du quotidien. Sous son écriture nerveuse, on sent une filiation avec Flaubert, ce même regard qui observe, dissèque et refuse les faux-semblants. Maria Pourchet aime Flaubert, elle l'a souvent dit, et c'est peut-être dans cette tension entre rage et exactitude qu'on la sent le plus flaubertienne. Trois auteurs, trois manières d'interroger ce qu'il reste de Flaubert aujourd'hui. Le maître de l'ironie, le prosateur absolu, mais aussi l'homme de chair, de fièvre et de solitude. Vous écoutez Au livre, etc. C'est parti.
Au livre, etc.
Maria Pourchet, Robert Lalonde, Alexandre Postel, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je voudrais commencer par une question collective. Si vous deviez résumer, alors je sais que c'est impossible, mais je vais vous le demander quand même, Flaubert en un mot, Alexandre Postel.
Acharné.
Robert Lalonde.
Neurasthénique.
Neurasthénique, c'est ce qui vous vient en premier. Et Maria Pourchet.
Mot, c'est difficile.
Loin.
Acharné, neurasthénique. Loin, ça fait rêver. Robert Lalonde, dans votre livre « L'imagination que donnent les vraies tendresses », vous faites revivre littéralement Flaubert à travers une correspondance imaginaire. C'était pas risqué d'écrire à la place de Gustave Flaubert ?
Oui, ben c'était risqué, c'est pour ça que je me suis d'abord engagé comme une espèce de jeu. Je pensais que j'allais simplement m'amuser moi-même avec moi-même à faire ça. Je ne croyais pas que j'allais aller jusqu'à en faire un livre. Sa correspondance a été une telle injection de passion, d'adrénaline et de lutte contre la bêtise humaine quand j'étais plus jeune et tout au long de ma vie que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi est-ce que si je lui écris, pourquoi est-ce qu'il ne me répondrait pas? Parce que j'avais l'impression qu'on était au-delà des 144 années qui nous séparent, capable de continuer un dialogue que j'avais fait tout seul avec lui, mais que je fais maintenant avec lui comme s'il était là, en fait, c'est ça.
Il vous fait quand même des compliments, ça vous a pas gêné?
Ben, en fait, quand je disais neurasthénique tout à l'heure, parce que un des désirs que j'avais, qui est absurde, je le sais, c'est je suis dans ce que Flaubert lui-même appelle l'invraisemblable vrai en faisant ça. C'est que j'avais envie qu'il soit de bonne humeur. J'ai toujours trouvé qu'il était assez déprimé en général sur lui-même, sur la vie et sur l'Europe et surtout en général. Je me suis dit, mes livres à moi sont plutôt de bonne humeur de façon générale. Donc je me suis dit, si je lui envoyais quelques-uns de mes petits carnets, peut-être que ça le ferait promener avec moi dans nos paysages et que ça le ferait apercevoir autre chose que la Seine grise qui coulait devant chez lui, qu'il pouvait peut-être même faire aller en bateau avec mes petits-enfants et que mes petits-enfants s'amuseraient beaucoup avec lui, etc. Donc j'essaye aussi, en même temps qu'on compare nos deux siècles dans ce bouquin-là, on a ce désir de ma part de faire que Flaubert sorte un petit peu de son cabinet et aperçoive le monde aussi passionnément qu'il observait par exemple Lorient d'un si grand voyage quand il était plus jeune. Oui.
Alexandre Postel, vous êtes entré chez Flaubert par un autre chemin. Le roman biographique, est-ce qu'on peut le qualifier comme ça, Un automne de Flaubert, vous montrez un homme au travail, dans la solitude, mais aussi dans la fatigue du corps. Il se considère lui-même, je cite, ça c'est de lui, démoli, fini, fêlé, triste comme un cercueil. Qu'est-ce qui vous a touché dans la figure de Flaubert à la fin de sa vie ?
Cette lucidité d'abord sur soi-même, effectivement sur son propre corps aussi. Ce sentiment que tout s'écroule autour de lui. Et en même temps, cette étrange persévérance qui, alors même que rien ne va, c'est un moment où il est menacé de ruine financière. Ce qui est très important pour lui, parce que c'est un bourgeois et c'est un rentier. Donc c'est quelqu'un qui a fait une croix sur le travail, qui a fait une croix sur la question des revenus pour pouvoir écrire.
Donc il compte sur sa nièce.
Voilà, il est obligé, il en est réduit à demander à sa nièce de lui payer ses cigares, de lui changer ses pantoufles si elle veut bien. Il en est là, voilà, dans une forme de dépendance. Tout ce sur quoi il a construit en fait sa vie, cette espèce de grand mythe romantique de l'artiste, voilà, libre, ce qui plane au-dessus du réel, eh bien il se le prend en pleine figure en fait, le réel. Et la réponse qu'il choisit, la réponse qu'il trouve plutôt, qui surgit dans sa conscience, m'a toujours déconcerté, me déconcerte encore même après avoir écrit ce livre, c'est qu'il décide d'aller à Concarneau. Il va retrouver un ami, l'amitié a toujours été quelque chose d'important pour lui, jusqu'outre-tombe avec Robert Lalonde. Et en effet, c'est l'amitié masculine, c'est quelque chose c'est une valeur vraiment importante. Il a d'ailleurs écrit, à mon sens, le grand roman de l'amitié masculine, à savoir Bouvard et Pécuchet. Et donc, il va se réfugier là-bas, à Concarneau, et là, dans cette espèce de bain de fruits de mer, de poissons, de Bretagne.
En fait, il faudrait écrire Flaubert et Pouchet.
Voilà.
Ce serait une réécriture de Bouvard et Pécuchet.
C'est ça, exactement.
Alexandre de Postel, il y a un extrait, enfin un passage de votre livre que j'aime beaucoup, où vous écrivez « C'est justement parce qu'elle est tolérable que la situation de Flaubert est atroce. Un malheur intolérable, on ne le tolère pas. Au-delà d'un certain degré d'affliction, l'esprit s'éclipse dans la sidération, le délire ou le déni. Et puis, comme le désert a ses oasis, les grandes douleurs ont parfois d'étranges adoucissements, à commencer par cela même qu'elles sont précisément de grandes douleurs. » Rien de tel ici. Le malheur de Flaubert est tout à fait tolérable, en effet, usant, mesquin et vaguement ridicule. Alors j'adore ce passage, et je me demandais, en résumé, Robert Lalonde aussi visiblement, en résumé, c'est une douleur dont il ne peut rien faire.
C'est une petite douleur, c'est quelque chose effectivement dont il ne peut rien faire, c'est pas quelque chose dont il pourrait, de toute façon il ne le ferait pas, il ne l'aurait pas fait, mais dont il aurait pu tirer un livre par exemple, ou construire quelque chose là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui le mine. De façon comme ça, ça s'effrite, voilà, c'est mesquin.
Et comment on s'en sort ? C'est quoi ? C'est les bains de mer ?
En l'occurrence, dans son cas, oui, par des gestes, en fait. Les bains de mer, la rêverie, et ce retour progressif vers l'écriture.
Maria Pourchet, vous lirez.
Non, j'avais une question à vous poser. Mais c'est pas précisément ce qu'il savait faire, Flaubert, des romans avec ce qui n'était pas noble.
Absolument.
Ce qui était petit, fait, oui. Ce qui était mesquin, ce qui était une pauvre vie.
C'est ça. C'est qu'il se retrouve soudain dans un de ses romans. D'une certaine façon.
Ouais,
voilà. Madame Bovary, c'est lui, pour le coup. C'est très juste, parce que même si effectivement... il n'est pas certain qu'il ait jamais dit « Madame Bovary, c'est moi », mais en revanche, là, ce problème d'argent, cette espèce de réel un peu gris, un peu poisseux, qui vous enserre, qui vous étouffe lentement, c'est exactement ça.
Elle est devenue lui.
Voilà.
Ce sentiment aussi de ne pas vivre alors que sa vie était d'une intensité extraordinaire. Mais en même temps, il avait l'impression qu'il ne vivait pas, qu'il ne voyait rien, qu'il ne sortait pas. Et alors, c'est pas vrai. Flaubert sortait tout le temps. Il y a toute une légende sur le fait qu'il était enfermé à vie, ce qui n'est pas vrai. Mais il n'avait pas cette jouissance du réel quotidien. Il avait beaucoup de mal avec ça. Et comme moi, c'est un peu mon terrain de jeu à moi. J'essaie, dans mon livre, de l'entraîner dans des promenades, dans des joutes, dans des... dans un amusement presque enfantin qui lui a beaucoup manqué. Il était triste depuis sa naissance, Flaubert. Il a même failli ne pas durer. Il a été malade, etc. Donc, c'était un grand hypochondriaque aussi. Donc, il était très inquiet de lui-même. Vous parliez de son corps tout à l'heure, c'est vrai. Il se reconnaît pas à un moment donné. Il comprend pas comment il a pris tout ce poids, pourquoi il a perdu ses cheveux, comment ça se fait que la vie s'acharne sur lui. Alors qu'en fait, il était habité par une magnifique contradiction, c'est-à-dire une passion de vivre effrénée et un effroi terrible de cette vie-là en même temps. Oui.
Maria Pourchet, vous avez souvent dit que Flaubert était l'un de vos écrivains tutélaires. Dans vos livres, on retrouve son esprit, mélange de lucidité, de colère, d'ironie, contre le monde et contre soi. Qu'est-ce qui, chez Flaubert, vous inspire le plus ?
Oui, j'ai dû souvent avoir l'outrecuidance de dire que je faisais.
Vous avez dit exactement dans certaines interviews qu'il était vraiment au-dessus.
Oui. Moi, j'ai pas un rapport comme Alexandre et comme Robert. Hein, j'ai pas un rapport encyclopédique à Flaubert. J'ai même pas un rapport amoureux. Oui, je pense que j'ai un rapport fasciné, un peu d'apôtre. Donc, je m'excuse pour les possibles platitudes que je vais émettre. Moi, Flaubert, il est important. Déjà pour une conception de la littérature qui... Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de prêche, il n'en veut pas. C'est pour ça que je disais loin. En fait, il est loin parce qu'il est haut. Et je me souviens, moi je l'ai découvert, avant de lire Flaubert, je l'ai découvert dans les correspondances qu'il avait avec Maupassant. C'était un livre dans les années 90, début des années 90.
Les premières correspondances parues, c'était avec Maupassant.
Oui, voilà. Et il y explique ça. Il y explique, en gros, de ne pas faire comme ces imbéciles de romantiques qui se croient toujours obligés de s'engager dans un truc et qui en perdent de la nuance. Il compare à un moment la littérature à une science. Il faut maintenir une distance suffisante pour ne laisser échapper aucune nuance et soit comme auteur. Disparaître comme auteur. Je crois que c'est à Maupassant qu'il dit, il faut que, alors vous allez me corriger, hein, il faut que l'auteur soit partout mais visible nulle part.
Oui,
et ça phrase, oui. Je crois qu'il y a peu...
Comme
je...
Dieu.
Oui, c'est ça,
comme Dieu. Dieu.
Oui, et puis comme Dieu. Et puis je crois que c'est dans la correspondance avec Sand que j'ai lu après, où il dit, elle dit que l'écrivain est sanctifié par son but et que il peut faire tout ce qu'il veut, il est sanctifié par son but. Et c'est dans une lettre à Flaubert. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que ça, cette conception-là, je suis incapable de l'atteindre. Mais parce que moi, disparaître comme auteur,
c'est ce que j'allais vous demander.
J'ai vraiment du mal.
C'est compliqué.
Je crois qu'on n'est pas. J'en vois peu des auteurs capables de faire ça. Et puis oui, tout ce qu'on met dans cette distance, en fait, qui en fait cette distance, c'est la définition de l'art. C'est ce qu'on met entre soi et le réel, quoi. L'ironie, comme vous voyez, la mélancolie aussi, parce qu'il était très très mélancolique. Et pourtant, ce n'est pas lui qui était là. Enfin, voilà.
Maria Pourchet, Robert Lalonde, Alexandre Postel. Dans un instant, on entrera plus en détail dans chacun de vos livres. Mais avant ça, on écoute Steve Ibrahim, Le mur du salon.
Il y a un trou dans le mur du salon. Il a la forme de la main de mon frère. Je crois que mon père veut le laisser là. Il veut nous donner une leçon. Mais crois-moi, c'est plus fort que les mots qu'on ne se dit plus à la maison. C'est beaucoup plus dur pour oublier un trou au milieu du salon. On joue au foot dans la cuisine. On garde le chat de la voisine. À 13 ans, on ne sait pas dire ce qu'on ressent. On casse les murs pour passer le temps. Pour voir la lumière de dehors. Voir si le soleil brûle encore. Le soleil ne rentre que chez le foison. Peut-être qu'il nous trouvera demain. Un jour ou l'autre on viendra. Un jour ou l'autre on comprendra. Pour l'instant je n'arrive même pas à te prendre dans mes bras. Y'a un trou dans le mur du salon. Il a la forme de la main de mon frère. Je crois que mon père veut le laisser là. Il veut nous donner une. Mais crois-moi, c'est plus fort que les mots qu'on ne se dit plus à la maison. C'est beaucoup plus dur pour oublier un trou au milieu du salon. Un trou au milieu du salon.
fera tomber la pluie pour lui. Aujourd'hui on pleure, on sourit. Je veux qu'on s'aime jusqu'à l'infini. Je sais qu'un jour il va marcher. Il aura besoin de place pour tomber. Je crois qu'on a trouvé une bonne raison pour casser le mur du salon. Un jour l'autre on viendra. Un jour l'autre on prendra. Pour l'instant je n'arrive même pas à te prendre dans mes bras. Il y a un trou dans le mur du salon. Il a la forme de la main de mon frère. Je crois que mon père veut le laisser là. Il veut nous donner une leçon. Oui, crois-moi, c'est plus fort que les mots. Qu'on ne se dit plus à la maison. C'est beaucoup plus dur pour oublier un trou au milieu du salon. J'ai toujours voulu monter sur le toit, toucher les étoiles du bout de mes doigts. Mais cette nuit, cette nuit, elles sont descendues juste pour moi. J'ai toujours voulu monter sur le toit, toucher les étoiles du bout de mes doigts. Mais cette nuit, cette nuit, elles sont descendues juste pour moi.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Maria Pourchet, Alexandre Postel et Robert Lalonde. Maria Pourchet, votre roman Tressaillir raconte la fuite violente, instinctive de votre héroïne, Michèle, qui, cherchant à défaire sa vie, découvre que la liberté est un supplice qui la confronte à la terreur et à l'épuisement. Quand on écrit un roman sur une femme qui tente de s'échapper, de se libérer, est-ce qu'on pense forcément à Emma Bovary ?
Je pense tout le temps à Emma Bovary. Pas spécialement pour ce livre, puis, et surtout pas quand il est question de s'échapper, puisque Flaubert, c'était le principal reproche que j'avais à lui faire, c'était qu'il l'a condamné quand même. Il n'a pas imaginé, c'était peut-être son pessimisme dont parlaient mes deux autres camarades, il n'a
pas imaginé... Est-ce que vous réalisez le rêve ?
Quelles sont les ressources de faire autre chose ? Et ça, toute jeune, je lui en voulais beaucoup pour ça, de ne pas avoir laissé une chance à Emma Bovary. Non, je ne pense précisément pas à Emma Bovary, on pense peut-être à la venger. D'écrire une femme qui aurait les ressources de faire ce truc qui n'est pas, qui est une expression, mais qui est terrible vérité, qui est de refaire sa vie. Alors effectivement, Emma Bovary, au XIXe siècle, elle n'aurait pas eu les ressources sociales, matérielles, morales, de refaire sa vie. Effectivement, c'est peut-être en ça qu'elle était condamnée. On disait tout à l'heure avec Alexandre qu'il n'écrivait pas sur son époque. Il écrivait, vous disiez, il écrivait sur toutes les époques. À cet endroit-là, il écrivait peut-être sur son époque. Elle n'aurait pas pu. Mais c'est récent qu'une femme puisse défaire et refaire
encore,
sa vie.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui peuvent
pas. Oui,
et
en plus, on parle depuis notre milieu, bien sûr. Donc oui, c'est une figure, j'y pensais pas, mais vous avez raison, ça fait partie de la galerie de fantômes
qui reste quand on écrit,
qui circule quand on écrit des personnages de femmes.
Robert Lalonde, vous êtes en duplex depuis Sherbrooke au Canada, et je vous propose de rejoindre Montréal, à 150 km de là, pour retrouver Katia Courteau, libraire à la librairie Le Port de Tête. Bonjour Katia.
Oui, bonjour Lilia, bonjour à tous.
Alors vous avez lu La fausse correspondance de Robert Lalonde, et ça vous a fait du bien?
Ah oui, ce roman m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et Robert Lalonde, d'emblée, j'ai besoin de vous remercier. Votre livre m'a apaisé, m'a rempli la tête de petits miracles du quotidien. Cette correspondance fictive est assez surprenante, c'est vrai, originale, mais on se laisse aisément porter par votre plume et votre esprit. C'est aussi un très bel hommage que vous faites à Gustave Flaubert. On sent toute votre tendresse pour ce grand écrivain. Et vous nous amenez d'une lettre à l'autre sur un chemin truffé de pensées et d'observations qui élèvent le cœur. On retrouve dans ce livre les thèmes qui vous sont chers, dont la nature qui est très présente dans votre œuvre, l'écriture aussi, et cet élan vers la résilience. D'ailleurs, Gustave, ce cher Gustave, vous répond ceci dans l'une de ses premières lettres. Et je trouve que c'est une très belle vision de l'écrivain que vous êtes. Vous lui faites dire, comme moi, tu sens le besoin d'élever ce qui est bas et de relever ce qui est tombé. Tu t'échoues partout, l'œil ouvert, les oreilles lavées devant, les mains débordantes de trouvailles glanées dans tes sentiers coutumiers. Fasse que ceux qui ne savent pas voir écarquillent les yeux en éplant tes phrases. Eh bien, Robert Lalonde, je vous avoue que mon regard est désormais un peu plus ouvert et aiguisé grâce à vous, vraiment. Et vous m'avez aussi donné envie de replonger dans votre œuvre et celle de Flaubert.
Et vous aviez une question pour Robert Lalonde, Katia Courteau.
Oui, en fait, j'aimerais un peu savoir ce que le conte de Flaubert, Un cœur simple, vous a apporté et pourquoi vous l'aimez tant. Est-ce un livre que vous conseillez pour entrer dans l'œuvre de Flaubert?
Ça, c'est sûr. D'abord, c'est court. Certains de ses livres sont très longs. Mais pour moi, c'est que le personnage de Félicité est bizarrement, ça m'a frappé tout de suite, même quand j'étais très jeune, la première fois que j'ai lu le conte, c'est ma grand-mère. Donc il y avait un rapport, encore une fois, de proximité extraordinaire. Ma grand-mère, elle voyait des tourterelles, elle leur parlait, etc. Donc Félicité, elle a son perroquet, elle voyait s'entrouvrir des mondes, etc. Et en même temps, ne comprenait absolument pas qu'on puisse apprendre à vivre autrement. Elle était Mohawk, donc d'origine amérindienne, ma grand-mère. Donc elle me chicanait quand j'essayais d'apprendre des choses dans des livres ou dans... Non, elle me traînait dans la nature, elle me disait, tu veux savoir c'est quoi un arbre, je vais te laisser là toute la journée, tu vas le sentir, tu vas le toucher, tu vas savoir ce que c'est, tu peux pas apprendre ça dans un livre. Il y a quelque chose de tel d'emblée qui était très proche dans Flaubert et dans la simplicité extraordinaire, qui n'est pas le cas de tous ses livres, avec laquelle il a écrit ce bouquin-là. Je me souviens même d'avoir entendu, il y a quelques années, Fabrice Lucchini en faire la lecture. C'était bouleversant. Et les gens ont dit, c'est Flaubert, mais il me semble que c'est pas Flaubert. Flaubert n'écrit pas comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas écrit ce livre comme il a écrit les autres. Il était très attendri. Il s'attendrissait facilement, Flaubert. Il pleurait facilement, mais il le montrait pas. Il le montre un petit peu dans ce livre-là.
Alexandre Postel, vous aviez envie de réagir.
Oui, je voulais ajouter justement par rapport à cette grand-mère dont vous parlez, Robert Lalonde, et à ses origines amérindiennes. Et j'ai trouvé que la proximité que vous établissez justement dans votre texte entre ce personnage et Flaubert fonctionne très bien, parce que lui-même, en fait, ne cesse de se décréter des identités autres. Il dit à un moment dans sa correspondance qu'il a du sang, qu'il est peau rouge, par exemple. Il l'affirme. Oui, oui. Ailleurs, il dit qu'il est bédouin. À d'autres moments, il est tartare. Carthaginois, enfin bref, toujours des barbares.
Un peu comme Rimbaud.
Toujours des barbares aux yeux de la civilisation du 19e siècle. Toujours des perdants aussi, des vaincus. Hein, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui l'attire beaucoup et quelque chose qui l'insupporte aussi dans l'arrogance, justement, du souriante et satisfaite du moderne.
Et c'est aussi le rapport qu'on a eu ici avec les Amérindiens pendant des années, qu'ils étaient des vaincus, des perdants, des abandonnés, etc. Mais Flaubert était très touché par des gens qui, dont le destin était entravé comme le sien, mais pire que le sien. Donc il n'y allait pas de main morte. Avec Salammbô, il est allé très loin, cette femme qui a pas pu sauver son propre destin parce que les hommes, il aimait les femmes tellement, Flaubert, qu'il ne voulait pas les blesser. C'est pour ça qu'il voulait pas les aimer plus, parce qu'il se disait, les hommes, ils font du tort aux femmes. Il ne faut pas que les hommes se mêlent d'aimer des femmes parce qu'elles vont devenir dépendantes et après, on va leur faire du mal. On va les blesser. Et les personnages blessés dans son œuvre, c'est vrai qu'il aurait pu sauver Madame Bovary, mais en même temps, il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que, dont il a été puni par la suite, même par les tribunaux, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle décide elle-même à la fin de son propre destin. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas commun à l'époque. On l'a beaucoup blâmé, surtout les églises. Il avait pour la femme une adoration telle que l'amour lui semblait impossible, justement.
Ouais, pour chef, vous êtes d'accord?
Oui, non, mais je suis en train de me dire que c'est précisément ce qu'on lit quand il écrit à George Sand.
C'est la
tendresse, la révérence qu'il a pour son intelligence, pour sa générosité, pour il a pas de mots pour le dire à quel point elle est magnifique. Et ça c'est très touchant.
Moi personnellement, si j'aime Un cœur simple, c'est pour une phrase qui est connue, la fameuse phrase. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour.
Ah oui,
elle est terrible. Cette phrase, elle est incroyable. Il y a tout ce premier chapitre sur les bourgeoises de Pont-l'Évêque qui envient cette servante. Et puis ce deuxième chapitre, après ce chapitre très descriptif, ce premier chapitre, elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Et là, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus sentimental et profond en une phrase. Quoi.
Et puis, stylistiquement, je veux dire, c'est très moderne comme phrase.
C'est très très moderne. Le livre est très moderne parce que... On voit tout et on entend tout et on comprend tout sans qu'il en dise beaucoup. Je suis sûr qu'il s'est rayé. Oui. Il le dit même lui-même dans ses lettres. Là, il reste plus rien de ce que j'ai fait. Finalement, c'est un squelette, c'est pas un livre.
C'est beaucoup de travail, une phrase comme ça,
oui. Oui, c'est vraiment le père de l'écriture moderne, ça c'est clair.
Bah, écoutez, vous me faites un pont magnifique. Maria Pourchet, Alexandre Postel et Robert Lalonde, on revient dans un instant. On parlera d'une question importante chez Flaubert, le style.
On parle de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Angèle, perdue. Et nous sommes toujours en compagnie des romanciers Maria Pourchet, Alexandre Postel et Robert Lalonde. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassem.
Alexandre Postel, dans votre livre sur Flaubert, vous écrivez « Lui qui a organisé sa vie pour écrire n'écrit plus ». Une certaine sérénité, une forme de gaieté même sont nécessaires à cette activité. Est-ce qu'il faut être heureux pour écrire ?
Heureux, non. C'est pas tout à fait la même chose. Mais dans une certaine disposition, en tout cas, à faire abstraction et à se resserrer sur l'écriture. Donc, quand même, une certaine capacité d'indifférence et donc une certaine immunité contre le monde extérieur.
Donc, il faut être neurasthénique. Comme dirait.
Il faut être calme. Calme. Voilà.
Comme dirait Robert Lalonde.
C'est ça, le calme. Voilà. Et ce calme, justement, voilà, c'est ce qu'il a cherché toute sa vie. Et ensuite, l'écriture elle-même lui a procuré des grandes joies. Enfin, parce qu'on nous présente quelqu'un là de misérable et d'atrabilaire et de mélancolique. Mais
non, mais il disait qu'il fallait pas trop l'écouter quand il disait ça.
Voilà, c'est ça. L'activité d'écrire, certainement, lui a procuré. On en a des témoignages, et comme elle procure à quiconque la pratique, en fait, on le dit pas assez, mais c'est quand même quelque chose.
Vous savoir heureux.
De très agréable, ça procure de grandes joies, oui, bien sûr, pour ceux qui la font, et puis on peut l'espérer aussi pour ceux qui la lisent.
Maria Pourchet, il faut être dans quelle disposition pour écrire ?
Il faut être tranquille, il faut être seul. Il faut vraiment, faut pas avoir de 4G, il faut avoir des...
Ah oui, aujourd'hui, il y a plus de contraintes.
Des murs. Ou des... Ah oui, oui, moi j'ai tellement besoin de sauvagerie que... oui, il faut être sauvage. Il faut être sauvage.
Robert Lalonde, Flaubert ronchonnait contre la bêtise universelle. Oui. Vous décrivez votre propre siècle marqué par, je cite, l'hypertechnologisation et la destruction de notre merveilleuse et vulnérable planète. Vous lui rendez l'appareil. Qu'est-ce qui unit le plus vos insatisfactions?
Mon rapport à... C'est parce que j'étais quand même étonné moi-même, puisque j'avais lu beaucoup dans ses lettres ce qu'il pensait de son propre siècle, de penser moi-même de mon propre siècle la même chose que lui, alors qu'on aura fait des progrès considérables et qu'on devrait normalement avoir dépassé certaines limites et certaines interdictions de vivre, surtout avec l'époque dans laquelle nous sommes au moment où on se parle. On peut pas dire qu'on fait mieux. Mais ce que j'ai aimé tout de suite au niveau du style, puisqu'on en parle de Flaubert, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez des premières lettres, je pense, où il parle de littérature avec Louise Collet, sa maîtresse de l'époque, il n'arrête pas de lui donner des leçons de style. Enlève ça, pourquoi cependant, pourquoi alors, pourquoi tu te dis je m'épanche, pourquoi tu me nommes tes souffrances tout le temps, pourquoi tu dis ceci me fait pleurer, et c'est à nous de pleurer, c'est pas à toi.
C'est l'éditeur idéal.
Pour moi, ça a été des leçons d'écriture extraordinaires, parce que à chaque fois, je revenais sur mes textes en disant, mais pourquoi cette phrase-là? Pourquoi ce mot-là? Qu'est-ce que c'est alors et ce cependant et ce, je ne me comprends pas? Et pourquoi cette introspection mêlée à des choses que tu décris déjà et que c'est au lecteur de ressentir et pas toi, etc.? C'est très drôle en même temps à lire parce que on se dit, la pauvre fille, elle devait se dire, mais il me déteste, mais non, je fais ça par amour, pauvre toi, si tu publies ça, ce sera une catastrophe, etc. Donc, je pense que ça aurait fait le meilleur éditeur qui soit, à l'époque, s'il l'avait été. Mais ses leçons de style sont d'une drôlerie et d'une perspicacité extraordinaire.
Ouais. Alexandre Postel, c'est un éditeur inconscient, Flaubert, pour vous?
Oui, oui. On peut retenir de... C'est ce qui est d'ailleurs très intéressant dans cette correspondance et dans la lecture de ses romans, puisque un prolongement entre les deux, mais c'est qu'on peut retenir un certain nombre, oui, de préceptes, d'une certaine façon. Le premier d'entre eux, évidemment, ce sera ce rapport au cliché, cette sensibilité au cliché, cette allergie, cette oreille qu'il a, en fait, pour entendre dans le discours des autres, dans le discours ambiant, dans le discours de son temps, ce qui relève de ce qu'il appellera l'idée reçue, et de s'en méfier comme de la peste, de l'écarter, de l'enlever, de le raturer, ou alors de l'exhiber dans la bouche des autres. Donc, c'est cette attention-là, par exemple. C'est aussi, je dirais... l'idée que il n'y a ni beau ni vilain sujet. Il n'y a ni beau ni vilain sujet. Il veut tôt vaut Constantinople, ajoute-t-il. C'est-à-dire que peu importe le sujet choisi, ce qui compte, c'est l'œuvre qui en résulte. Et même en un sens, il va jusqu'à dire que les beaux sujets font les mauvais livres. Il y a cette suspicion, si vous voulez, de la recherche de la part de l'auteur d'une sorte de plus-value qui serait liée au sujet qu'il a choisi et non pas à la qualité de son texte. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui sont très très fortes en fait, très assez.
C'est comme ça, il dit comme ça simplement, il y a du soleil sur le fumier. Il dit souvent des trucs comme ça. Moi, j'essaie de montrer le beau là où, à cause de votre bêtise, vous savez pas le voir. En fait, c'est ça qu'il nous dit. Il est désespéré continuellement. Il pleure souvent, Flaubert. Il dit souvent qu'il pleure. Je pense pas que ce soit métaphorique. J'ai l'impression qu'il a une tendresse, une émotivité très proche de l'enfance dans sa vie courante. Ça contraste extraordinairement avec, j'allais dire, la dureté et l'intransigeance qu'il avait avec lui-même. Mais n'est-ce pas les deux qualités qui sont nécessaires quand on écrit, c'est-à-dire de s'attendrir et en même temps d'être impitoyable? Non, avec
justement, je pense que ça va très bien, Maria Pourchet.
Je poursuivais la réflexion dans ma tête d'Alexandre quand il disait l'oreille pour le cliché. Et c'est vrai que ce qui nous appelle, je pense pas nous particulièrement vers Flaubert, c'est qu'il fait de la sémiotique avant tout le monde. Il se pose la question de ce que parler veut dire avant Bourdieu, avant Barthes. La déconstruction du langage au XIXe siècle, c'est quand même assez incroyable. Donc, pour moi, si on parle de style, ça commence par là. Cette obsession pour la langue, pour sa justesse, et pour ne pas lui faire embarquer ce qu'elle n'a pas à dire. C'est pour ça qu'il déteste les romantiques, parce que le sujet est beau, parce que la langue est chargée, parce que vous parliez de leçons Robert Lalonde dans les lettres à Louise Collet. Et moi, je trouve que la leçon stylistique, pour moi, elle était dans Emma Bovary, parce que c'est ce moment... C'est la première fois dans la littérature du 19e siècle, que moi je vois ça, c'est le fond épouse à ce point la forme. C'est-à-dire que quand Emma est amoureuse, s'enlise dans la passion, bah, les phrases sont longues, sont collantes, il y a plein de relatives, et quand ça... Quand elle passe à l'action, quand elle fuit, ça cavale. Les phrases sont courtes. Il est à ça de la phrase nominale. Mais il ne dira pas jusque-là, parce qu'il est quand même de son époque. Et un art de l'ellipse, et pareil dans l'éducation sentimentale. Et ça, j'avais absolument pas, j'étais au lycée, j'avais absolument pas les outils pour analyser ça. Et en plus, j'ai pas fait d'études de lettres ensuite. Mais je me souviens être sensible à ça. Tiens, il se passe quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est simplement l'avènement du style qui va avoir... Il n'y a pas de nouveau roman sans lui, en fait.
Oui, puis il a fait beaucoup de transgressions. Il écrit à l'imparfait et au présent dans les mêmes, dans la même page.
L'indirect libre aussi, très virtuose.
Alexandre Postel, opine du chef. C'est, en tant que prof de français, c'est intéressant quand même d'étudier Flaubert.
Ah bah...
il y a de quoi faire.
On pourrait passer l'année faire que ça, d'autant qu'une autre chose remarquable, c'est que chaque livre, en quelque sorte, appelle sa forme. Et que moi, je me souviens, très simplement, de mes premières lectures de différents romans de Flaubert, ça produit des effets très différents. Vous lisez Madame Bovary, vous êtes adolescent, enfin, au lycée, moi, ça m'a fait pleurer. Celui
en fait, c'est un auteur qui a adapté son style aussi à son propos.
C'est ça. Salammbô, je me souviens très bien de l'avoir lu... L'été, sous un ciel très bleu, un livre très violent, furieux, excité.
Oui, furieux, oui, oui.
Bouvard et Pécuchet, une espèce de douce hilarité perpétuelle. Enfin, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à chaque fois à produire une forme qui soit, comme le rappelait Maria, vraiment adhérente à son
c'est sujet. Ça la définition du style.
Exactement.
Oui.
Alexandre Postel, dans votre livre, vous montrez justement, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, comment Flaubert corrige sa phrase. Par exemple, il transforme la première phrase de son manuscrit de Saint-Julien. Mmh. Alors, jamais il n'eut meilleur parent, ni d'enfant mieux élevé que le petit Julien devient. Jamais il n'eut d'enfant plus joli que le petit Julien, ni de meilleur parent que son père et sa mère. Qu'est-ce que ça change ?
Ça, on peut spéculer à l'infini, parce que tout. Mais en revanche, le bénéfice, si vous voulez, de cette espèce de manie qu'avait Flaubert de conserver tous ses papiers, mais vraiment tous, enfin, vous voyez, eh bien, c'est que nous disposons de tous ces manuscrits, de tous ces brouillons, et qu'on peut donc cheminer à travers la fabrique d'une phrase. Voilà. Alors ensuite, il n'explique pas pourquoi il fait tel choix. Bon, ça, c'est nous qui pouvons le supposer. Mais en l'occurrence,
c'est
par
ce
exemple.
Que vous
Oui, j'essaye d'entrer dans sa tête à ce moment-là. Quand, sur quelques phrases, je n'ai pas la prétention de le faire sur l'ensemble de ce récit de la légende de Saint-Julien Hospitalier, mais je prends quelques phrases comme ça et j'essaye de suivre leur genèse et d'accompagner ce qui pourrait être, ce qui aurait pu être la justification de ces choix éventuels. D'ailleurs, parce qu'il y a aussi des moments de caprice, d'aléas, de hasard un petit peu, mais enfin quand même, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il écrit. Et donc, là, en l'occurrence, c'est une question, je pense, de cadence.
Oui, c'est ça. La phrase, les phrases pourraient être équivalentes, mais elles ne le sont pas du tout.
C'est une question de cadence, c'est une question de rythme.
Je pense que aussi, au-delà et à l'intérieur de tout ça, il y avait la notion qu'il n'écrivait pas pour réussir, il l'écrivait et il réécrivait pour continuer. Ce qu'on fait, en fait, c'est pas quand on écrit de vouloir réussir, c'est qu'on veut continuer. C'est difficile des fois de continuer un livre, donc des fois on revient sur ces phrases, on la change, puis on se dit bon, ça y est, ça va mieux, et puis on va pouvoir continuer. Le lendemain, il dit mais non, ça va pas mieux vraiment, on continue. Donc il y avait toute cette bataille qu'il a livrée pour ce style qu'il a imposé formidablement. On la vit tous quand on écrit, je crois.
Alexandre Postel, vous aussi, vous avez été élu par nos libraires. Direction Montréal, où aux côtés de Katia Courteau, nous retrouvons Mike Viennot de la librairie Mediapol. Bonjour Mike.
Bonjour Lilia.
Alors, vous avez lu les deux ouvrages d'Alexandre Postel, son ouvrage sur Flaubert, mais aussi Toutoui, paru à la rentrée littéraire. Toutoui, c'est la confession d'un homme obsédé par Louis et qui, cherchant à sortir de son isolement, utilise des moyens clandestins pour capter et répertorier les sons de l'extase féminine. Mais en réalité, c'est bien plus que ça, Mike.
Oh oui, Lilia, comme vous le savez, je suis un gourmand de lecture. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et là, je vous sens toutoui, l'oreille tendue. Eh bien, à la lecture de votre dernier roman, je dirais qu'il s'agit là d'un olni, un objet littéraire non identifiable. C'est un roman dans le roman, un roman sur les romans, un texte qui parle d'un texte à propos d'un texte. Mais au-delà de cette mise en scène de l'écriture, ce qui m'a touché, c'est votre réflexion sur la solitude. Une éditrice qui ne peut s'arrêter de lire, un pseudo-auteur qui ne peut s'arrêter d'envoyer des chapitres. Il y a un désespoir poignant dans ce genre de spectacle, parfois burlesque. Un burlesque dans un jeu d'attraction-répulsion. Et côté attraction, j'ai aimé le jeu de mots qui donne au mot jouissance un ton différent en ajoutant un tréma au i, jouissance. Jouir par l'ouïe, entendre en ayant un plaisir, se délecter par l'écoute, c'est une approche audacieuse.
Le livre est audacieux, oui. Et j'avais une question d'ailleurs à ce sujet. Votre héros est écrivain. Il écrit donc sur la jouissance féminine et son éditrice lui dit que son sujet pourrait être perçu comme sexiste. Mmh. Et donc on assiste exactement à ce que vous disiez tout à l'heure, à la défense du style contre la morale. Est-ce que c'est possible ça aujourd'hui, Alexandre Postel ?
C'était en tout cas ce qui m'intéressait d'explorer. Parce que au fond, ces questions, elles ne cessent de se poser d'âge en âge finalement. Cette question du rapport entre littérature et morale. Il y en a un. Je pense. Il y a un rapport entre littérature et morale. Simplement, il n'est pas où on le place ordinairement, à mon avis. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le sujet, mais il est, à mon avis, dans le rapport que le texte installe avec son lecteur. Et la capacité qu'offre un texte à son lecteur, justement, de s'interroger, de réfléchir, de se dissocier de ses préjugés, justement, des
idées reçues. Est-ce que les lecteurs, aujourd'hui, sont capables de lire sans préjugés moraux ?
Alors, justement, c'était ce qui m'intéressait d'explorer à travers cette situation, donc d'une éditrice qui reçoit et qui accompagne donc le manuscrit d'un auteur, manuscrit gênant, potentiellement, effectivement, sexiste dans son contenu, ou en tout cas qui relève d'une forme d'obsession sexuelle qu'on peut juger en effet immorale. Et c'était de voir justement ce qui se joue là dans ce temps de la lecture, parce que elle commence par lire le texte, bon, elle est effectivement assez réservée, elle lit en quelque sorte, d'abord, elle réagit avec une sorte d'identité, une identité de femme, une identité d'éditrice, voilà. Et elle éprouve de la réticence. Et au fur et à mesure que le texte se déploie et qu'elle le lit, elle glisse vers quelque chose d'autre, elle perd un petit peu les repères initiaux. Et il me semble que l'expérience de la lecture, si elle a quelque valeur, c'est en tant que justement cette perte de repères. Cette espèce de flottement, de basculement vers autre chose que le moi-même que je connais déjà.
Mais ça, c'est l'idéal de la lecture.
Oui.
Qu'en pensez-vous, Maria Pourchet ?
En vrac, sur la question de peut-on lire à travers... peut-on lire sans préjugés ? Moi, je ne pense pas. Puisque ça voudrait dire qu'on est capable de penser... Enfin, on pense tous à travers des représentations, quelles qu'elles soient. Alors, il faut être un minima conscient de ces représentations, mais c'est très très dur.
Mais est-ce qu'un jour, aujourd'hui, un livre peut payer son sujet, en tout cas sa moralité ou son...
Payer, c'est-à-dire qu'il y a une facture...
Une facture en termes de lecteurs, de ventes...
Mais toutes les œuvres, surtout aujourd'hui. Je crois qu'on est dans des temps assez, assez idéologiques, donc oui, bien sûr, plus que jamais. Là, j'ai pas d'exemples qui me viennent immédiatement, mais oui, j'en ai plus.
Aujourd'hui, on est quand même lu aussi à partir d'un sujet, Alexandre Postel, non ? Même si c'est regrettable.
Bien sûr, oui, oui.
On parlait de Flaubert tout à l'heure,
Oui, mais c'est justement ce qui est... C'est précisément de ça que j'ai envie de... Comment dire, pas de parler, mais c'est précisément là-dessus que, en quelque sorte, que porte ce
roman.
Bien
sûr, c'est pour ça que je vous pose la question.
C'est sur cette manière que nous avons de percevoir un livre à travers son sujet, qui effectivement n'a rien de flaubertien, qui est même complètement anti-flaubertienne, lui-même affirmant donc qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet, que ça se joue ailleurs. Et c'est sur cette difficulté que nous avons à faire ce pont
Ah oui, parce qu'en ayant pris vous-même un vilain sujet, entre guillemets, voilà, vous vous exposiez au risque aussi de... peut-être pas être lu par le grand public, par exemple.
Et puisqu'on parlait de Flaubert, cher ami, c'est le style qui sauve tout ce bouquet.
Bah voilà.
C'est le style, c'est le style, c'est la face, c'est la vision que vous en avez. C'est si on s'arrête à la question morale ou la question des préjugés, etc. C'est qu'on a en train d'avouer ses propres limites pour entrer dans un bouquin. Et de celui-là, en tout cas moi, je l'ai traversé même en PDF écrit tout petit sur mon écran, en me disant alors là, s'il n'y avait pas ce style, s'il n'aborderait pas, si ces phrases n'étaient pas faites comme ça, on pourrait s'arrêter de lire. Mais non, on galope un peu. Ça m'a vraiment impressionné. Ah bah,
ça, pour le coup, c'est Flaubertien, ouais. Qui disait qu'il rêvait d'un livre qui ne se tienne que par la langue, le style. C'est... Oui. Mais pour finir, refaire une boucle sur ce qu'on disait, c'est précisément parce que on est dans des temps idéologiques et que on serait tenté par tellement de précautions morales avant d'écrire qu'il faut à tout prix. Enfin, ce que disait Flaubert, ne pas s'engager, paradoxalement. Exactement. Ou s'engager dans le non-engagement, s'engager dans une liberté absolue. Et que, bien sûr, il faut se donner des limites morales en tant qu'auteur, par exemple, ne pas exposer les siens ou des choses comme ça. On a chacun les nôtres. Mais pour ce qui est de la morale, je pense qu'il faut quand même lutter, quoi.
Voilà, donc avec Saint-Postel, vous êtes un résistant.
La morale littéraire est très présente aujourd'hui. Qu'aurait fait Flaubert s'il avait, comme moi, eu récemment entre les mains un contrat d'édition qui laissait l'auteur tout seul, parce que maintenant les contrats sont comme ça, si on a des problèmes de poursuite ou que des gens trouvent que moralement c'est inacceptable et qu'on nous traîne devant les tribunaux, etc., on est tout seul maintenant pour le faire. L'éditeur ne nous appuie plus. Donc il y a comme une espèce d'une porte ouverte à l'autocensure qui est assez dangereuse dans cette époque justement d'idéologie contradictoire. On va forcément blesser quelqu'un, on va forcément ne pas plaire, on va forcément déranger. Et là, si on en arrive à si Flaubert en était arrivé à dire que il n'allait pas publier son Madame Bovary parce que ça allait déranger, on en aurait été privé de tout le début, en quelque sorte, de la littérature moderne.
Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Mike, Maria Pourchet, Alexandre Postel et Robert Lalonde. On se retrouve dans un instant. Mais d'abord, on écoute Diziz et Théodora, Mélodrama.
Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit, je le t'aime.
Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. Je suis comme un son que toi.
son couteau et pas Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta Valentine.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Maria Pourchet, Alexandre Postel et Robert Lalonde. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Robert Lalonde, vous êtes toujours avec nous et nous retrouvons Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête qui a un conseil lecture pour vous.
Ah.
Oui, oui, alors Robert, votre livre m'a donné envie de vous parler de poésie. Il s'agit d'un livre d'Hélène Dorion qui s'intitule « Un visage appuyé contre le monde et autres poèmes ». Bon, j'imagine, sachant que vous êtes un très très grand lecteur, j'imagine que vous connaissez ce recueil qui a été publié à l'origine en 1990.
Oui.
aux éditions du Norrois. Mais je vous invite à y replonger parce qu'à la lecture de votre livre, c'est ce recueil qui m'est venu tout de suite en tête. Oui. Et il faut dire que cette année, Hélène Dorion a fait son entrée dans la collection Poésie Gallimard.
Oui, ben oui, j'ai bien vu ça. J'étais très content pour elle, très content. Ben oui, ben c'est... Moi, mes livres ont brûlé il y a quelques années avec la maison qui est partie en feu. Donc, il était là, ce livre d'Hélène. Donc, ce que vous m'incitez à faire, c'est de me reprocurer le bouquin et plonger dedans, c'est ça?
Oui, absolument. Vous savez, moi, ce recueil m'accompagne depuis 30 ans. Ouais. Tout comme votre roman, Robert Lalonde, la poésie d'Hélène Dorion s'écrit ici sous forme de lettres et révèle aussi la même quête métaphysique où les éléments naturels abritent ses questionnements sur le manque, le vide et le passage du temps. Sa poésie épurée d'une beauté à couper le souffle, je trouve. Et j'aimerais vous lire un extrait.
Avec plaisir.
Aurons-nous le temps d'aller très loin, de traverser les carrefours, les mers, les nuages, d'habiter ce monde qui va parmi nos pas, d'un infini secret à l'autre? Pourrons-nous écouter le remuement des corps à travers le sable? Aurons-nous le temps de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés par nos tendresses, nos chutes communes? Pourrons-nous tout écrire d'un passage du vent sur nos visages, ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité? Aurons-nous le temps de trouver un mètre carré de terre et d'y vivre ce qui nous échappe? Je ne sais pas encore.
Merci, merci Katia. Robert Lalonde, vous aimez Hélène Dorion?
Oui, ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est curieux, nous aimons beaucoup, nous nous voyons peu, on s'écrit. on s'aime
une
encore une fois
par
la correspondance dans ma vie, oui, c'est ça.
Ah bah comme Robert et Georges Sand, voilà. Hélène Dorion sera en dédicace au Salon du Livre de Montréal le 22 novembre. À 18h15. Et on retrouve Mike Viennot de la librairie Mediapol à Montréal. Mike, vous aviez un conseil lecture pour Maria Pourchet et Alexandre Postel. C'est l'autrice d'un premier roman qui s'appelle Isabelle Lapointe.
Oui, Lilia, il s'agit d'un autre roman plein de fantaisie. Épinette, justement, d'Isabelle Lapointe aux éditions La Mèche. Nous sommes dans un village saut aux oiseaux. Déjà, son nom, tout doux, tout poétique, nous donne le goût de plonger dans le texte. Et dans ce décor de la Côte-Nord, au Québec, ce village fictif prend des proportions humaines nourries par la force du territoire. J'ai aimé cette langue imagée, colorée, qui emprunte aux accents de la région, tout en projetant une poésie pittoresque, parfois harmonieuse, parfois dissonante. Le roman prend des allures de conte grâce à cette oralité, car on retrouve une panoplie de personnages fantaisistes, une galerie de portraits qui compose une large fresque où on devine la Côte-Nord comme ligne d'horizon et comme territoire d'appartenance et d'isolement. C'est aussi un roman de l'identité, celle de la narratrice qui raconte ses déboires et espoirs d'enfance, une identité qui se construit à travers des souvenirs boiteux, des aspirations loufoques, un souffle de vie incomparable, un ton incisif, tendre, franc, coloré, une écriture lumineuse tout autant que triste, simple tout autant que fantaisiste, un décor plus vrai qu'il ne peut exister. Merci Isabelle Lapointe pour ses personnages, ses souvenirs et cette belle fantaisie.
Merci Mike, je pense que ça lui fera plaisir. Isabelle Lapointe sera elle aussi en dédicace au Salon du Livre de Montréal le samedi 22 novembre à 16h et le dimanche 23 novembre à 18h au Palais des Congrès de Montréal. Robert Lalonde, vous serez présent aussi au Salon du Livre, le samedi 22 novembre à 15h30, voilà, pour ceux qui voudraient vous y retrouver. Merci beaucoup Robert Lalonde, merci à tous les trois.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, je recommande vos livres, qui tous, à leur manière, font résonner la voix de Flaubert au présent. L'imagination que donnent les vraies tendresses de Robert Lalonde, c'est aux éditions du Boréal, un roman épistolaire et lumineux, où l'auteur dialogue avec Flaubert à travers le temps, dans un grand élan de tendresse. Je vous conseille aussi Un automne de Flaubert d'Alexandre Postel, publié chez Gallimard, ainsi que Tout oui, son nouveau roman aux éditions de l'Observatoire, deux livres qui explorent la solitude du créateur et la quête du mot juste, avec une précision d'orfèvre. Et enfin, Tressaillir de Maria Pourchet chez Stock, un texte électrique, drôle et cruel, parfois sur le vertige de partir et la fatigue d'aimer. Merci également à nos libraires du jour, Katia Courteau, Mike Viennot, ainsi qu'à mon équipe. Ce samedi, il y avait Lilian Allôme à la réalisation, Guillaume Fichu à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle que Livre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.